8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
Bienvenue à vous et bonjour Mélanie Luce.
Bonjour.
L'UNEF et d'autres syndicats et mouvements jeunesse se sont mobilisés hier pour dénoncer la précarité de nombreux étudiants face à la pandémie. Mais s'il y avait une mesure à adopter d'urgence, laquelle réclamez-vous ?
L'augmentation des bourses et des aides au logement, c'est ça l'urgence. Il faut des mesures qui permettent d'avoir de l'argent directement dans la poche des étudiants et de manière immédiate. Parce que là, la situation n'est plus tenable. On a des étudiants qui continuent de faire la queue aux distributions alimentaires, des étudiants qui en viennent à dormir dans leur voiture. Il y a quand même ce genre de témoignages et qui ont accumulé les dettes de loyer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une aide de 150 euros en décembre sur l'année universitaire en cours quand on est boursier. Ça correspond à 12,50 euros par mois. Ça, c'est largement insuffisant
par rapport
à la crise.
Pour résumer, vous avez eu le gel du montant des loyers Crous, le ticket U à 1 euro pour tous les étudiants, le gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée, le doublement des aides d'urgence. Vous estimez que le gouvernement, avec tout ça, ne prend pas au sérieux cette situation ?
Bah, quand vous me parlez de gel, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais d'inscription, qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix donc de ce qu'on paye, ça doit être considéré comme une grande avancée dans une période de précarité extrême. Bien sûr qu'on est content de voir qu'il n'y a pas d'augmentation, mais encore heureux. On a des étudiants qui sont au plus bas. Un chiffre. Lors du premier confinement, on a 36% des étudiants qui exerçaient une activité, donc qui étaient salariés, hein, qui l'ont perdu. Ça correspond à une perte de 274 euros par mois. Face à ça, vous pouvez pas me dire que simplement la non-augmentation des frais d'inscription est une réponse. Et d'ailleurs, surtout quand l'augmentation des frais d'inscription a été introduite dans la loi par la ministre aujourd'hui en exercice. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'on est content qu'il n'y ait pas d'augmentation. Par contre, ce qu'on attend, c'est des vraies mesures des vraies solutions par rapport à nos difficultés.
Et on va continuer à en parler, évidemment, c'est un sujet important. Mélanie Luce, ça fait 2 ans que vous présidez l'UNEF et on va vous présenter aussi aux auditeurs qui vous découvrent peut-être ce matin. Je vais citer vos propres mots. Je cite « Je suis la première présidente racisée de l'UNEF ». Racisée, à quel groupe racisé ou catégorie raciale estimez-vous appartenir ?
Le mot racisé, il signifie simplement que je suis une personne qui n'est pas blanche. Et donc que je suis la première femme à ne pas être blanche, à diriger l'UNEF, qui est une organisation qui existe depuis plus de 110 ans.
Ça interroge. Vous considérez donc la couleur de peau comme une identité, une construction sociale ?
Je considère que c'est même pas moi qui considère. C'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est un mot sociologique qui signifie simplement que effectivement, s'il n'existe pas de race biologique, il existe des races sociales. Et la race sociale, c'est-à-dire, c'est une construction
mais en
effectivement
de la société. Présentant ainsi vous-même, vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante.
Non, pas du tout.
Vous vous présentez ainsi.
En me présentant ainsi, je fais un constat. Je fais le constat simple qui est qu'aujourd'hui, l'UNEF, en 110 ans d'existence, n'a pas eu de présidente qui était non blanche. Je fais aussi le constat de dire que bah, quand on s'appelle Mohamed aujourd'hui en France, on a 10 fois plus de difficultés à trouver un emploi.
Ça veut dire vous estimez qu'il y a un racisme systémique, institutionnel, venant des Blancs ?
Alors la question, c'est pas venant des Blancs. Je considère...
Vous vous présentez comme non blanche, donc je me permets de vous demander si à l'inverse, il y a un racisme, une discrimination venant des Blancs à votre égard et à l'égard d'autres personnes.
Le constat qu'on fait, c'est simplement qu'effectivement, on est dans une société qui reproduit les discriminations. On reproduit le sexisme. Aujourd'hui, on a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est de 23%. Ça s'appelle une reproduction du sexisme par la société. C'est pas simplement quelques recruteurs qui sont sexistes.
Je vous parle du racisme. Et est-ce donc... que vous considérez qu'il y a un racisme d'État, un racisme institutionnel ?
Vous voulez que je vous réponde ?
Oui, j'aimerais bien.
Si vous voulez que je vous réponde,
parce que c'est possible.
Oui, mais il faut faire une comparaison. À partir du moment où on a un sexisme qui est ancré partout, on peut faire la comparaison avec le racisme. Pourquoi, quand on s'appelle Mohamed, on a 10 fois plus de difficultés à trouver un emploi ? Pourquoi, quand on regarde les écarts de salaire, on voit non seulement que il y a des écarts entre hommes et femmes, mais qu'il y a aussi des écarts entre personnes d'ascendance immigrée et des personnes qui n'ont pas d'ascendance migratoire. Ça montre qu'il y a effectivement des inégalités qui sont ancrées dans notre société et qui démontrent que tout au quotidien, on va reproduire ces discriminations.
Et vous dénoncez,
ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les personnes blanches qui vont le faire.
J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme.
Bien sûr.
Y compris le racisme anti-blanc.
Alors, attention, parce que je pense que la question, c'est...
Attention. Non, elle est claire. Ma question, permettez-moi de la voir et ayez votre réponse. Est-ce que vous dénoncez aussi le racisme anti-blanc ?
Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme organisé ? Est-ce que vous considérez quand on est blanc aujourd'hui, on ne peut pas accéder à un emploi, on ne peut pas accéder à un logement, on ne peut pas...
Je vais vous citer quelques tweets et vous allez me dire si c'est du racisme ou du mépris anti-blanc. Plusieurs membres de l'UNEF lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délire de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié. N'est-ce pas là du mépris anti-blanc ou une forme de racisme?
Attention, quand vous parlez de mépris, c'est pas pareil que de racisme. Il peut y avoir des discriminations qui sont subies par les personnes
mais
blanches, et dans ce cas-là, c'est effectivement inacceptable.
Mais
vous me posez une question, je vous réponds. Quand il y a une discrimination, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable.
Mais est-ce que c'est le cas
ici? La différence sur les termes.
Vous ne me répondez pas.
Non, ben oui, mais si je vous réponds. La différence sur les termes, elle est simplement due au fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent du racisme au quotidien, qui, dans leur vie, ne peuvent pas accéder à un emploi.
Est-ce que vous considérez que cette suite de responsables
on fait une différence sur les termes.
Bien.
C'est pas d'ailleurs moi qui ai inventé cette différence.
Est-ce que vous considérez que ces tweets, les membres de l'UNEF,
je vais
sont
revenir
une
dessus,
forme de
mais
mépris
laissez-moi
anti-blanc.
Finir de vous répondre. Ce mot racisme anti-blanc, d'où il vient? Il vient au départ de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier à utiliser ce terme dans les années 90.
L'extrême droite. Mais dites-moi, est-ce que vous considérez que ces tweets, est-ce que vous les dénoncez? Est-ce que c'est du mépris, voire une forme de racisme anti-blanc?
Mais ces tweets, je les ai déjà dénoncés. J'ai déjà expliqué que l'UNEF n'était pas du tout associée à ces tweets-là.
Donc vous n'avez jamais, par exemple, tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF?
Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir.
Ah
donc,
bon,
est-ce que vous voulez des vraies réponses?
Je les attends depuis tout à l'heure.
Très bien, dans ce cas-là, laissez-moi répondre.
Mais est-ce que vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF? La question est simple.
Donc, très bien, laissez-moi expliquer. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser. Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben, effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité.
Mais est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple.
D'accord, la question est simple. La réponse aussi. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter? Donc, vous voulez une réponse? Laissez-moi la dire. La réponse, c'est que aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc, on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité
donc,
dans l'UNEF.
Donc la
dans l'UNEF, on considère que la lutte
vous
contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches.
Donc,
on doit la faire
il y a
ensemble.
Des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les blancs ne sont pas admis, c'est ça?
Mais je. Enfin.
Oui ou non?
Ça a déjà été expliqué.
Est-ce que ça existe?
Mais je viens de vous expliquer que ça existe.
Bon,
ça existe comment? De quelle manière?
Vous ne considérez pas la non-mixité comme une discrimination?
Est-ce que vous voulez faire de la surface ou est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué? Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement
voyez,
pour parler des discriminations qui sont subies.
Mais la question est simple, vous m'avez répondu.
Pas pour parler de la manière dont l'UNEF s'organiserait, etc. La question, c'est pourquoi vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui discutent simplement des discriminations qu'elles subissent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes. Pourquoi ?
La non-mixité donc n'est pas une discrimination à vos yeux, on l'entend ce matin.
Non, je vous pose une question aussi. Pourquoi vous considérez que c'est différent?
Madame, ce n'est pas moi qui organise des réunions où les blancs ne sont pas admis.
Non, mais
vous êtes
je vous pose aussi la question de pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont pu vivre et quand ce sont des femmes qui parlent du racisme, du sexisme qu'elles ont pu vivre.
On entend votre argumentaire. Venons-en à l'affaire qui a secoué l'IEP Grenoble et bien au-delà. L'affichage de noms de deux professeurs accusés de prétendue islamophobie a été relayé sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de la section UNEF de l'IEP. Votre syndicat a-t-il participé à la mise en danger de ses professeurs?
Notre syndicat déjà n'a pas participé à cet affichage. Par contre, on a déjà exprimé plusieurs fois avoir regretté le poste qui avait été fait. Il y a donc effectivement une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Dans cette photo, il y avait quoi? Il y avait déjà les photos du collège tout le collège. C'est-à-dire que c'était un collège pas que sur ses enseignants. Il y a des collèges qui dénonçaient les agressions qui étaient subies à l'IEP. Et effectivement, on a expliqué plusieurs fois que c'était une erreur de relayer ces photos. On a d'ailleurs eu l'occasion de s'excuser auprès de l'enseignant en question. C'est une erreur qui était à la fois maladroite parce que en aucun cas la section locale de l'UNEF a voulu mettre lancer une vindicte
ce matin
sur ces personnes-là.
Votre soutien clair et franc à ces deux professeurs dont les noms étaient placardés sur les murs au nom d'une prétendue islamophobie.
Mon soutien face aux menaces qu'ils peuvent subir, oui. Par contre, je pense que il y a deux sujets.
Il y a un mais.
Non, il y a deux sujets. Il y a la question du placardage qui est inadmissible. Et à laquelle l'UNEF ne s'est jamais associée.
Mais, tiens, qu'est-ce qui est inadmissible? Parce que rappelons ce qui a été placardé, Mélanie Luce, il y a les noms, et puis juste en dessous, il était inscrit « L'islamophobie tue ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'islamophobie tue dans notre pays?
Alors, je pense qu'il faut revenir sur
plusieurs
sujets.
La réponse est assez claire. Enfin, la question est assez claire. Elle appelle une réponse.
Qu'est-ce que vous appelez islamophobie? Parce que j'ai vu vos différentes descriptions et je trouve que la description n'est pas bonne. Je suis allée donc, avant cette interview, regarder tout simplement dans le dictionnaire. Qu'est-ce que me dit le dictionnaire? Que l'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans. L'hostilité envers l'islam et les musulmans, c'est ce qui a amené effectivement des terroristes d'extrême droite à faire une tuerie sur la mosquée de Christchurch. C'est ce qui a amené aussi l'extrême droite en France à incendier une mosquée.
Après des accusations d'être islamophobe, Charb et ses amis ont été tués à Charlie Hebdo. Après avoir été accusé d'être islamophobe, l'enseignant Samuel Paty a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui tue dans notre pays? L'islamophobie ou l'islamisme?
Il y a les deux, et tout simplement.
Les deux. C'est-à-dire vous pouvez me donner un nom de quelqu'un qui a été malheureusement tué à cause de l'islamophobie?
Mais qu'est-ce que je viens de faire? Vous ignorez toutes les victimes de la mosquée de Christchurch? Vous ignorez aussi toutes les victimes de Biarritz il y a quelques années?
Pourquoi vous avez du mal à répondre? Est-ce que c'est parce que
j'ai
l'UNEF,
pas de mal à répondre. En
l'UNEF
aucun cas,
a des accointances avec
vous,
des associations
vous
comme
le
Tarif sur l'islam politique?
C'est-à-dire que vous avez décidé que l'islamophobie c'était une définition que vous avez acceptée vous-même, mais qui n'a aucune cohérence scientifique. La définition de l'islamophobie, c'est l'hostilité envers les musulmans et l'islam. À partir de ce moment-là, si on parle d'hostilité envers les musulmans, la question c'est est-ce qu'on accepte dans notre pays l'hostilité envers les musulmans? Je ne pense pas qu'il faut l'accepter. Après, il y a la question de comment on lutte contre cette hostilité. Et effectivement, on ne lutte pas contre cette hostilité en placardant des noms sur un
Madame
campus.
Madame,
c'est certain. Et c'est ça qui pose problème.
Il est où l'universalisme de l'UNEF d'autrefois? Il est où? Et je vous pose la question de l'universalisme et pas en écriture inclusive.
Alors, l'universalisme de l'UNEF, bien sûr, l'UNEF est toujours universaliste. Et l'universalisme, pour moi, c'est simplement un objectif. C'est-à-dire, pour être universaliste, il faut avoir comme objectif que la couleur ne compte pas. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, malheureusement, la couleur compte. C'est-à-dire que être un homme qui est noir ou arabe, c'est 20 fois plus de chances de se faire tuer par la police. Ensuite, j'ai quand même une photo à vous montrer avant qu'on conclue cette interview. On n'arrête pas de nous dire que l'UNEF aurait été contre le port du voile à l'université. Et quand vous me dites l'universalisme de l'UNEF, où est-il passé? Vous me faites référence à ça. Ça, c'est la position de l'UNEF en 2013. C'est-à-dire, interdire le voile à l'université, c'est contre-productif. C'est ça la position de l'UNEF en 2013. Donc l'UNEF, elle n'a pas changé de position sur ces sujets-là.
Chacun
la seule chose qu'elle fait aujourd'hui, c'est défendre tous les étudiants.
Votre idéologie
par ailleurs,
et vos combats intersectionnels.
Vous commenciez votre interview par parler de la précarité étudiante et des difficultés des étudiants. La priorité, c'est quand même ça. On
merci.
A parlé sur toute cette interview deux minutes sur ce qui se passe
vous
pour les étudiants. Alors que les étudiants meurent de faim,
remercie,
meurent d'angoisse. C'est ça aujourd'hui
merci
le sujet. C'est pas la polémique idéologique comme le décrivent aujourd'hui les enseignants de Grenoble qui témoignent dans Le Monde aujourd'hui de ce qu'ils subissent. Donc je pense qu'il faut à la fois aller fouiller cette enquête, notamment en regardant ce qu'a pu dire.
On arrive à la fin de cet entretien. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, 8h20.